Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Donc au programme d'aujourd'hui, eh bien, je reçois la chorégraphe Catherine Godet pour sa toute nouvelle création « Se dissoudre » qui sera présentée à l'Agora de la Danse. Également au programme, la soprano Marianne Lambert pour son album « Canzone di notte ». J'espère que j'y mets un petit peu d'accent. Accompagnée par la harpiste Valérie Milo, vous l'entendrez dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'instant, on part en musique avec Flora Cash qui nous chante « You're somebody else » et on retrouve Catherine Godet tout de suite après.
I saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through. It's gotta bleed through. You held the balance of the time that only blindly I could read you. But I could read you. It's like you told me, go forward slowly. It's not a race to the end. You look like yourself, but you're somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, though now you're making me nervous. You were the better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. I finally sat alone, pitch black, flesh and bone. Couldn't believe that you were gone. Well, you look like yourself, but you're somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone.
Alors voilà, nous sommes avec la chorégraphe Catherine Godet. Bonjour Catherine. Allô ?
Oui, bonjour.
Ah, je vous entendais plus. Bienvenue dans l'émission, déjà. Donc, on va parler du spectacle, votre création, Se dissoudre. Or déjà, moi, le titre, sans l'avoir vu, rien que le titre, eh bien, ça me fait penser à l'harmonie.
Ben oui, il y a sûrement une part d'harmonie dans le spectacle. Mais en fait, c'est une pièce qui a été créée en deux parties. La première était vraiment une recherche très ludique qui visait pas nécessairement de production. Puis la deuxième partie s'est faite en plein dans le premier confinement en 2020.
Oui.
Et c'était une situation vraiment particulière où le temps était littéralement suspendu. Puis Marie-Philippe Santerre et moi, on s'est retrouvés, donc on n'était même pas en studio, on était dans un espace oui. intime dans la maison. Puis et là, on a commencé à créer. Et donc, on s'est vraiment fondu dans ce temps suspendu-là. Donc, Marie-Philippe, dans sa performance, c'est comme si elle se laisse bercer, en fait, par les influences autant internes qu'externes qui viennent à elle. Puis elle surfe, en fait, sur cette espèce de vague-là d'indéfini et d'infini qui se présente à elle. Donc, oui, il y a une part, je pourrais dire, d'harmonie dans tout ça, puis une part aussi d'abandon et de laisser aller total.
Oui, parce que quand vous trouvez ce titre-là, se dissoudre, ça veut dire quelque part que le mélange se fait bien. On ne se perd pas dans l'autre. On est juste. C'est comme pour réinventer quelque chose d'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois dans le titre. Alors, je ne sais pas si c'est ce que ça donne sur scène ou ce que vous avez voulu démontrer.
Oui, comment dire, il y a comme. Marie-Philippe se fond vraiment à l'espace, autant à l'espace qu'à elle-même. C'est-à-dire qu'elle entre dans un état assez méditatif, je peux dire. Il y a quelque chose de très contemplatif dans le spectacle, très méditatif. Puis on espère que cet état-là se transmette en fait au spectateur pour créer une espèce de... Ouais, de rituel contemplatif commun.
Parce qu'en fait, c'est ce moment où on a dû rester, je vais appeler ça en isolement, parce que c'est ce qui s'est passé quand même, qui a fait que ça a été créé pour un seul personnage?
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je faisais une petite recherche chorégraphique avec Marie-Philippe, sans pression de performance, justement. Puis ensuite, le confinement est arrivé et les salles, les diffuseurs... ont réaligné leur saison pour présenter des solos. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec l'Agora de la danse. Donc, avec la directrice de l'Agora de la danse, on a convenu justement de prolonger cette recherche-là avec Marie-Philippe et d'en faire une pièce complète. Donc, oui, probablement que je l'aurais fait de toute façon, mais c'est sûr que le confinement, la pandémie a accéléré un peu la production de cette pièce-là, oui.
Qu'est-ce qui vous a inspiré là-dedans? Par quoi vous êtes laissé? Est-ce que c'est entre toutes les deux que ça s'est passé ou vous êtes venu déjà avec ce projet-là et après tout s'est modelé?
Ouais, ben non, c'est pas venu de moi ni de Marie-Philippe, c'est vraiment de notre rencontre où on cherchait quelque chose de très simple. En fait, on est vraiment parti d'un seul mouvement qui est une espèce de pulsation, de vague à l'intérieur du corps de Marie-Philippe. Puis on s'est posé un questionnement très, très simple qui était qu'est-ce que ce mouvement-là va devenir si on le laisse se transformer par lui-même sans lui appliquer une volonté particulière, ni de ma part, ni de la part de Marie-Philippe. Donc, à force de répéter ce mouvement-là, ce geste-là, il y a tranquillement des petites variations au niveau du poids qui se font, il y a des petites fatigues musculaires qui peu à peu vont venir transformer, faire basculer la perception qu'on a de ce mouvement-là et faire progresser donc la chorégraphie. Donc, au départ, c'était vraiment cette simple idée-là, cette simple recherche-là qu'on pensait être très austère au départ, mais oui. Finalement, on s'est beaucoup amusé à se laisser porter justement par l'inconnu. On savait pas du tout où ça allait nous mener.
Oui.
Et peu à peu, il y a des images très fortes qui sont apparues sans qu'on les recherche. Évidemment, ben elles apparaissent, on les prend.
Oui.
Puis on cisèle tranquillement la partition autour de ça. Oui.
Ça donne l'impression de ça. C'est comme si dans le bon côté, si tant est qu'il puisse y avoir un bon côté, c'était de se retrouver avec soi, un petit peu dans le silence. Et d'ailleurs, dans la présentation, c'est dit aussi, face à elle-même, si bien ancrée, quand le bruit se tait, elle contient l'essentiel, elle est tous les possibles.
Exactement. Ben, c'est sûr que l'isolement, le silence, ça nous a, en tout cas, je vais parler pour Marie-Philippe et moi, mais ça nous a propulsé dans une zone où le temps était vraiment distendu.
Oui,
parfois, ça passait très rapidement. Il y avait 5 jours qui étaient passés puis on s'en était pas rendu compte. Puis d'autres fois, c'était interminable. Donc, il y a vraiment cette sensation-là dans la pièce de temps suspendu et de silence. Oui, c'est-à-dire que c'est très plein. On entend beaucoup le souffle de Marie-Philippe, mais l'enrobage, la conception sonore est très, très minimaliste. Mis à part la toute fin où là, il y a comme une révélation, un soulagement un peu cathartique où on a la sensation d'enfin respirer.
Oui.
Donc oui, c'est sûr que c'est venu influencer cette part de silence et d'isolement. C'est venu influencer la chorégraphie, tout à fait.
J'ai l'impression que, milieu artistique ou pas, ça nous a tous fait passer un moment assez étrange et de la vitesse de la vie d'habitude à un moment où il fallait s'arrêter, se poser. Et je pense qu'il y en a même qui ne savaient pas comment on fait pour se poser. Donc, ça traduit assez ce genre de choses.
Oui, mais c'est très singulier comme moment.
On va faire Catherine, on va faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après et on continue la discussion.
Parfait, merci.
Donc, on va écouter Maxime Bronsart qui nous chante « Soleil ».
Le café est chaud, plus chaud que son cœur, rempli de peur et parsemé de fleurs. Le café est chaud, plus chaud que son cœur, mais l'automne n'a pas peur d'arracher ses fleurs. Et même si l'hiver arrive, moins de chaleur, ça glace le cœur. Mais à deux, ouais, à deux, c'est toujours mieux pour toffer jusqu'à l'été. Oh, garde, espoir, le soleil reviendra. Oh, garde, espoir, le soleil reviendra. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, jusque dans le dos. Et un petit rire, ouais, un petit sourire, nos cœurs en chaleur, refait ses fleurs. Donc il faut jamais oublier qu'au bout d'un tunnel, il y a un soleil.
Alors nous voici de retour avec Catherine Godet. Catherine, oui. quand je lisais le communiqué, donc j'avais retenu aussi cette très jolie phrase qui était « Entre le flottement et la suspension, individuellement et collectivement, nous sommes l'écran de projection d'un film dont nous sommes aussi l'acteur ». C'est très bien dit, c'est très beau. Est-ce que vous avez découvert des choses sur vous en travaillant ça, toutes les deux d'ailleurs?
Est-ce qu'on a découvert des choses sur nous? On découvre toujours des choses sur nous hein, quand on entre au cœur d'un processus, surtout dans un processus comme en tout cas ceux que j'affectionne, c'est-à-dire
oui.
qu'on entre en studio sans avoir d'idées préalables de ce qu'on va créer, de ce qu'on va découvrir. J'arrive jamais avec un thème
quelque chose de tout construit. C'est
jamais,
ça?
Jamais, jamais, jamais. Puis c'est vraiment pas par comment dire, parce que je veux pas, je voudrais bien, mais ça fonctionne pas comme ça pour moi. Donc j'arrive vraiment avec la page blanche, puis on se met en branle en sollicitant vraiment notre intuition. Donc on essaie de, je dis souvent qu'on essaie de découvrir ce qui est déjà là, mais qu'on ne conscientise pas. Donc c'est certain que à chaque fois il y a une part qui est révélée de nous-mêmes quand la pièce est terminée. Une part de nous-mêmes, ou une part, des fois, je me dis, c'est une part de l'inconscient collectif
oui,
qui apparaît dans la pièce. Oui, peut-être aussi. Mais cela dit, oui, c'est certain que dans les pièces que je crée en général, il y a une réalisation sur soi. Pour ce qui est de se dissoudre, quelle serait cette réalisation-là? Je ne saurais pas dire précisément, sinon que...
Parce
que je me complais oui. dans je me complais dans ces zones-là d'incertitude. Donc,
oui, c'est ça.
Les moments de suspension, pour moi, sont riches de découvertes, oui, sur moi-même. Oui.
Et parce que quand vous amenez quelque chose, même si c'est une page blanche, vous avez déjà quelque chose dans la tête, une idée, un sentiment. Le voir exprimé par quelqu'un d'autre qui l'interprète, est-ce que ça donne des moments, ça donne d'autres ouvertures ou ça vous fait penser à quelque chose que vous n'aviez pas prévu et sur lequel vous avancez?
Oui, ben c'est sûr que j'essaie toujours de projeter sur les interprètes mon ressenti personnel, mais comme ils le remâchent avec
oui, c'est ça.
Sensations, leur propre histoire, souvent, ils le poussent plus loin, ils le magnifient, ils le mettent sous la loupe, donc ça devient encore plus évident pour moi. Dans le cas de Marie-Philippe, c'est drôle que vous posiez cette question-là parce que dans ce dissoudre, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on avait l'impression d'une naissance, en fait. D'une naissance comme si on partait des limbes un peu, puis qu'on arrivait à la vie, comme si ça donnait cette sensation-là à certains spectateurs. Puis j'avais pas, moi, du tout perçu cette chose-là. Puis quand on me l'a dit, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Il y a une espèce de flottement de zone entre deux mondes un peu. Puis à la fin de cette pièce-là, on arrive au monde où on quitte le monde. Qui est peut-être un peu la même chose.
Oui. D'une façon ou d'une autre, oui, on s'y retrouve là, comme ça.
Oui, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert, l'aspect de...
C'est bien parce que c'est quelque chose qui nourrit votre créativité et qui fait partie de ce que vous allez amener la prochaine fois aussi.
C'est certain. À chaque fois que j'arrive en studio, je ne sais pas ce que je vais créer, mais il y a toujours cet élan-là qui est fait comme des points de suspension de la dernière pièce, comme
oui.
s'il n'y avait jamais tout qui avait été dit, puis ça m'amène justement à vouloir poursuivre l'histoire, poursuivre le roman, créer une suite, oui.
Est-ce que en demandant ça à une chorégraphe, on va parler de votre passion aussi un petit peu, est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, des fois, il serait plus facile de passer par le mouvement du corps pour décrire quelque chose plutôt que par la parole?
C'est certain. Puis pourtant, j'aime beaucoup les mots, mais j'ai toujours cette sensation-là de ne jamais aller au bout de ma pensée quand j'utilise les mots, comme s'il me manquait de mots, peut-être qu'il m'en manque littéralement, je ne sais pas, mais comme si les mots restreignaient parfois la pensée, ou alors que j'aurais besoin d'énormément de temps pour vraiment aller au cœur de ma pensée. Puis j'ai souvent l'impression que le mouvement traduit davantage la complexité, en tout cas la complexité à la fois des pensées qui habitent un être humain, de ses sensations, de ses contradictions, de ses peurs, de ses émotions à cet instant-là qui entrent souvent en friction les unes avec les autres, mais qui font justement la complexité, le multifacette qui est fascinant dans l'être humain. Et c'est ça qui est parfois difficile de rendre avec les mots, en tout cas pour ma part.
Oui, pour ceux qui savent, comme vous, jouer avec le corps et lui faire exprimer des choses. La plupart des gens sont plutôt gauches à ce niveau-là.
Oui, mais le corps dit toujours beaucoup.
Oui, c'est vrai. On dit qu'on peut traduire tellement, on peut voir tellement de choses dans la façon de bouger d'une personne sans même qu'elle s'en rende compte. Donc, j'y crois volontiers. Mais en même temps, le métier de chorégraphe est un métier... Enfin, moi, à mes yeux, merveilleux, parce que c'est vraiment le côté gracieux qui est mêlé avec l'intelligence et qui est mêlé avec le fait de parler sans nous parler.
Oui, il y a définitivement une intelligence du corps dans laquelle on plonge en tant que chorégraphe. Mais il faut quand même être à l'affût. Faut développer cette sensibilité-là, à être capable de traduire un peu les impressions qui sont souvent très abstraites, hein, que le corps nous renvoie. C'est un monde qui fait appel non pas à l'analyse ou au mental, comme je dis souvent, mais vraiment aux sensations.
Au vrai morceau de nous, qu'on n'a pas le temps de le réfléchir et de se cacher derrière, donc on le donne tel quel aussi.
Exactement.
ça aussi, ce côté-là. Alors, dites-moi, c'est présenté à l'Agora de la danse de quand à quand?
Alors, c'est la semaine prochaine que ça se passe.
Oui.
C'est le 2, 3, 4 et 5 mars prochain, donc.
C'est à 19h?
Laisse-moi vérifier, oui.
Moi, j'ai à 19h, donc.
Oui, sauf le 5 mars, je crois que c'est à 16h.
D'accord. Donc, on est à la fin, là, juste la petite question de la fin. Est-ce que ça va? Vous êtes prête?
Oui, j'ai terminé ma dernière répétition ce matin. Puis, c'était fantastique, vraiment. Marie-Philippe est une interprète exceptionnelle, je tiens à le souligner, parce que sa performance est vraiment renversante dans la pièce. Ouais.
Alors, ça se passe à l'Agora de la danse la semaine prochaine. Donc, vous pouvez prendre les billets. Et merci beaucoup de nous avoir répondu. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Catherine Godet.
Ça m'a fait plaisir aussi. Bonne fin de journée.
Bonne continuation. Au revoir.
Au revoir.
On part en musique avec Pomme qui nous chante « Pourquoi la mort te fait peur ?» Je pourrais te répondre, Pomme, mais je vais t'écouter chanter plutôt.
Tu sais que toi et moi
Alors restez avec nous parce que dans la prochaine demi-heure, nous allons avoir la soprano Marianne Lambert pour son album Canzone di Notte, accompagnée par la harpiste Valérie Milo. Ça va être un très bon moment, on va entendre une musique qui va nous calmer, nous reposer, nous détendre. Hein Nicolas, mais ne t'endors pas sur le micro s'il te plaît, parce que...
Je vais essayer de faire mon mieux.
Je vais avoir besoin de toi pour la suite des événements, donc... Attends. Mais restez avec nous, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Écoutez les Faramineux avec Arlette Farah.
Alors, comme annoncé en première partie d'émission, eh bien, nous sommes avec la soprano Marianne Lambert. Bonjour Marianne.
Bonjour, comment allez-vous?
Bien, je viens d'entendre, j'ai choisi un morceau qui s'appelle La Promesse, ça. de cet album. Et c'est la promesse d'une nuit enchanteresse.
Exact. Et, écoute, on ne promet rien de moins avec cet album.
C'est vraiment... quelle voix! Waouh!
Ah, ben merci. Ah, c'est gentil.
Vraiment.
Mais c'est sûr que... Aussi, on a enregistré ce disque-là avec une acoustique absolument fabuleuse à l'église Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies. C'est sûr qu'avec l'arcus Valérie Milo, ça émet des couleurs puis une ambiance absolument fantastique.
Ah ben c'est beau la harpe.
Ouais, absolument.
Le son de la harpe, ça fait rêver, ça nous emmène ailleurs. D'ailleurs, il faut le dire, hein, complètement.
Tout à fait. Puis c'est une musicienne absolument fantastique. Donc, je ne peux que m'emporter vocalement.
Alors, le fait que vous vous connaissiez bien et oui. que vous ayez même partagé la scène ensemble, comment cet album est né? Il est né de votre effort à toutes les deux ou bien c'est vous, Marianne, qui êtes venue avec quelque chose et puis... À la base, déjà, comment ça s'est passé?
Mais en fait, c'est vraiment dès le début de nos premières collaborations, donc il y a plus d'une dizaine d'années, voire même 12 ans, on avait la volonté de faire un disque. Donc, c'était une volonté qui venait de Valérie et puis évidemment, qui me plaisait évidemment ce projet, mais pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas fonctionné. On était très, très occupés chacun de notre côté avec les tournées et tout. C'est quand même demandant de produire un album. Et voilà la pandémie qui arrive.
Oui.
Il n'y a pas eu que du négatif avec cette pandémie, même si
c'est... Bon, oui, c'est vrai. C'est le seul côté positif qu'on retire à chaque fois dans le côté culturel et même pour nous, c'est d'avoir appris à se reposer un peu, qu'on le veuille ou pas. Voilà.
Ben c'est ça, se reposer, poser les choses pour le temps de réfléchir, faire des recherches, puis faire aller notre créativité. Donc,
oui.
c'est vraiment grâce à la pandémie où ce que on avait du temps d'y réfléchir, puis de mettre nos cartes sur la table, puis de vraiment voir quelles sont les possibilités de répertoire, parce que je veux dire, c'est infini le répertoire qu'on peut utiliser.
Oui.
Donc, puis aussi, Valérie Milo est tellement une musicienne extraordinaire que pratiquement n'importe quel répertoire, elle peut le réadapter, elle peut l'arranger pour la harpe, pour son instrument. Donc, c'est sûr qu'on a d'abord commencé à penser qu'est-ce qui m'allait bien vocalement, parce qu'il faut savoir que pour les chanteurs, c'est pas parce qu'on chante bien ou qu'on est formé qu'on peut chanter toutes sortes de répertoires ou toutes sortes d'époques. Donc, faut respecter le timbre, le registre, tout ça. Donc, étant donné que j'ai une voix de soprano léger, lyrique avec de l'agilité dans la voix, donc ça se collait bien avec le bel canto. Puis j'entendais tellement la harpe pour ce répertoire parce que c'est un répertoire rempli de lyrisme. Puis je trouve que l'instrument de la harpe, c'est parfait pour venir appuyer.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, après, quand on l'entend, l'album, on n'imagine plus les morceaux autrement qu'avec la harpe.
C'est vrai, vous avez raison. Oui, puis pourtant, la plupart des pièces, beaucoup des pièces n'ont jamais été adaptées pour la harpe, drôlement. Franchement, je suis allée avec mon instinct. Évidemment, je l'ai avec l'approbation de Valérie, puis avec d'autres collègues musiciens qui nous connaissent bien. Mais je suis d'abord allée vraiment avec mon instinct en écoutant les pièces, en regardant les partitions. Puis, si j'entendais la harpe, ben voilà, c'était dans le programme.
Ouais, c'est formidable. En même temps, les morceaux que vous... C'est vous qui les avez choisis?
Oui, c'est moi qui les ai choisis.
Est-ce que vous êtes découverte dans les morceaux que vous avez choisis et chantés après? Est-ce que vous avez fait quelques découvertes sur votre voix?
Oui, mais en fait,
En se disant, tiens, je peux aller là ou voilà.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a des répertoires qui sont parfois donnés par des mezzo-soprano, comme par exemple la dernière pièce du disque Juice to Chill.
Oui.
Alors, c'est souvent chanté par des mezzo, mais parce que je peux rajouter des envolées beaucoup plus aiguës, alors ça peut être chanté par des sopranos.
D'accord.
Puis, j'ai découvert aussi que, avec l'âge, j'ai beaucoup plus de médium dans la voix. J'ai gardé mes aigus, mais j'ai plus de médium, beaucoup plus de corps. Alors, j'ai pu jouer aussi dans ces couleurs-là, un petit peu plus sombre, qui est bien plaisant
oui.
pour varier un peu les couleurs.
Parce que la prochaine chanson qu'on va entendre, c'est celle
oui.
qui titre « Dans un bois solitaire ».
Oui, de Mozart.
Ah, c'est de Mozart, d'accord.
Oui, c'est de Mozart, « Dans un bois solitaire ». On a seulement deux pièces qui sont chantées en français. Et pourquoi on a utilisé des pièces? Il y a quelques pièces de Mozart et quelques pièces aussi de Schubert. Bon, on va me dire, mais c'est pas du bel canto, mais ces deux compositeurs-là, entre autres, ils ont appris l'écriture d'abord par la technique italienne. Donc, plusieurs de leurs pièces sont vraiment teintées, qui ont le même type de couleur, le même style. Alors, voilà pourquoi. Alors, « Dans un bois solitaire », c'est une pièce absolument magnifique.
Oui, j'y trouve aussi. Donc, celle qu'on a entendue, donc, c'était « La promesse ». Et
oui,
je trouvais que c'était ça commençait bien pour nous en promettre, et oui. c'était le cas. On va entendre « Dans un bois solitaire » dans un instant, et celle avec laquelle on terminera l'entrevue, c'est celle qui s'appelle « Le crépuscule ».
Ah oui, c'est magnifique, de Donizetti. Oui.
Je ne sais pas ce qu'elle décrit, mais pour moi, le faire dans ce sens-là, la promesse, c'est comme... C'était dans mon imaginaire, en tout cas, c'était comme la naissance, la promesse d'une vie. On arrive, on n'a encore rien écrit sur cette page blanche et on a tout à faire. Et le crépuscule, c'est le moment de la signature, en bas de la page.
Ah, c'est beau. J'appuie.
Ça me fait penser à ça. C'est pour ça que ça a été dans cet ordre-là, voilà. Dans le choix,
idée.
Sinon il y en avait tout plein à écouter, parce qu'il y en a il y en a combien de chansons dessus? Il y en a 18, je dis une bêtise, si je dis
19, donc ça varie. Il y a des petites pièces d'une minute trente, puis ça va jusqu'à presque 5 minutes, donc il y en a qui sont très courtes, puis il y en a qui sont un petit peu plus longues, et c'est 19 pièces. Oui.
On n'a pas choisi.
On a quand même été généreuse.
C'est vrai. On n'a pas choisi les plus longues pour se laisser le temps de converser ensemble. Mais en même temps, voilà. C'était celle-ci. Donc, on va écouter, Marianne, on va écouter Dans un bois solitaire. Et
oui.
puis, on continue la conversation tout de suite après ça. Parce qu'on va parler aussi. Vous avez eu des rôles absolument fabuleux. Et on va en parler dans un instant. D'accord?
Okay.
Donc, pour l'instant, on écoute Marianne Lambert dans un bois solitaire.
Thank you.
Nous sommes de retour avec Marianne Lambert. Marianne, je me rends compte en vous écoutant que finalement, même si je trouve que la langue italienne est tellement belle, chantée dans ses formats musicaux, ben la langue française se débrouille pas mal aussi.
Mais c'est bien gentil. C'est quand même notre langue maternelle, puis tellement de répertoires absolument magnifiques qui sont en français. Donc, oui, il faut la mettre en valeur, il faut la mettre à l'avant. Mais merci beaucoup.
Oui, j'ai trouvé ça très... ça glissait presque autant que cette espèce de fait que ça se mélange si bien, la langue italienne avec cette musique, ça va parfaitement bien. Et j'ai trouvé, là, dans cette chanson, que la langue française tirait son épingle du jeu. Complètement.
Voilà. Merci. Mais c'est quand même très, très bien écrit. Oui, oui, absolument.
Alors, Marianne Lambert, après des rôles magnifiques dans lesquels que vous avez tenu, j'ai vu ça, que vous allez avoir le rôle de Madeleine dans l'opéra Albertine en cinq temps, la direction musicale de Catherine Major, qui va être en tournée entre 2022-2023.
Exact. Wow. Exact. Absolument. Ça va être fabuleux. C'est quand même une pièce de Michel Tremblay. C'est pas rien.
Oui, je l'ai vue en pièce de théâtre, donc je suis curieuse de voir en opéra.
Ben, on a fait en fait des extraits au Rideau Vert au mois d'août. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. J'ai dû être remplacée à la dernière minute parce que j'étais enceinte de mon garçon, puis j'ai eu des complications. Donc, j'ai dû être remplacée, mais sinon, ça va être la première officielle en septembre. Je ne me rappelle plus des dates exactes, mais d'accord, ce sera en septembre 2022, c'est cette année.
Oui.
Donc, déjà en avril, on se réunit pour faire le musical, la première lecture, tout ça. Puis oui, c'est un groupe de femmes, de chanteuses, d'actrices absolument fabuleuses. La première lecture des extraits qu'on a fait quand on s'est réunis cet été au mois d'août, on a pleuré.
Ah oui, je veux bien le croire.
Puis la musique de Catherine Major, c'est fantastique. Elle arrive à capter l'essence de chaque personnage, puis ça donne vraiment une autre dimension à la pièce. On a tellement, puis on n'a pas arrêté de s'échanger, s'envoyer des photos, se donner la bonne année. C'est un groupe de femmes. On a seulement passé deux semaines ensemble, on est déjà tricoté serré. Donc ça va être un projet que je souhaite qu'il va être vraiment inoubliable pour le grand public.
Ben on le souhaite aussi. En tout cas, c'est une magnifique pièce. La chanter comme ça en opéra, j'ai très hâte de savoir ce que ça va donner. Voilà, je suis très curieuse et impatiente aussi.
Oh, écoute, c'est ça. La première, ce sera au Rideau Vert. Oui. On a plusieurs représentations déjà. Puis ensuite, ce sera une tournée à travers le Québec.
Et puis, oui. Je souhaite bon vent pour qu'elle aille même encore plus loin, parce que ce serait méritant
on
pour ça.
On croise les doigts. Il y a des peut-être que ce soit un peu plus loin, mais je ne peux pas en dire plus.
On verra bien. Donc, pour terminer aussi sur une note heureuse, parce que c'est aussi un bonheur, vous avez eu un petit garçon.
J'ai eu un deuxième garçon. Mon plus vieux a 10 ans. Puis, mon petit garçon, il y a 2 mois.
Alors, il doit être imbibé de musique, de chant, Hein, parce que avec les répétitions, avec l'enregistrement de l'album, avec tout ça, ça a dû...
Oui, en fait, c'est deux accouchements là, que je viens de faire. Là.
Oui, c'est ça.
Puis en fait, lui, son essence est même dans l'album parce que je l'ai chanté enceinte, je l'ai produit enceinte. Tout ça, ça s'est fait. Le lancement, j'étais très enceinte. On a préenregistré le lancement parce que, bon, on prévoyait que j'aurais les bras pleins pour le lancement. Et non, écoute, ben c'est ça. C'est imbibé de mon petit garçon, Luca. Alors, il ne sait pas, mais il y a déjà un album à son actif.
Ben oui, c'est ça. Parce qu'on dit toujours que ça fait du bien. Il nous est toujours conseillé, en tant que femme enceinte, de chanter des chansons à notre futur bébé. Alors, avec une maman qui a la voix que vous avez, je pense que là, il est mû pour partir peut-être dans ce cadre-là aussi plus tard, qui sait.
Qui sait, on sait jamais. Mais voyez, mon garçon le plus grand, lui, il est pas trop attiré le monde musical, mais lui, c'est plus le rythme.
Ah,
donc,
oui.
Mais lui, il était habitué de me suivre. Gaël, mon grand garçon, il s'est rendu compte que durant la pandémie, il a dit, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'avion. Lui, il était habitué de prendre l'avion 6 mois.
Oui.
Puis de me suivre partout, on fait l'école à la maison, il traîne dans les coulisses, mais pour lui, c'est complètement normal. Puis là, il se rend compte que ça lui manque.
Mais oui, finalement. Je comprends bien. Comme ça doit manquer à sa maman et aux spectateurs aussi qui viennent.
À toute la famille, parce qu'on est habitué de voyager. Puis de, ben voilà. Alors là, petit Luca.
Petit Luca sera peut-être plus calme avec la harpe, qui sait.
Oui. Ben lui, il s'endort. Chante. Là, j'ai recommencé à chanter. Chante à tue-tête, à plein poumon. Puis lui, ça le calme. Puis,
il s'endort.
Ouais. Il s'endort.
C'est merveilleux, en tout cas. merci beaucoup, parce qu'on est arrivé à la fin de cette entrevue. Donc. Merci beaucoup. Eh ben oui, déjà, c'est vrai. Hein? Oui. Merci beaucoup, Marianne Lambert. Donc, l'album, alors, merci. Je vous laisse le prononcer. J'ai essayé d'y mettre le plus bel accent, mais allez-y.
Alors, c'est l'album, c'est Canzone di Notte.
Voilà, j'étais pas très loin, donc ça allait pas mal.
Bravo.
Accompagné par l'harpiste Valérie Milo, bien sûr. Donc, un très bel album qu'on peut trouver en ce moment, puisqu'il est sorti quand, au mois de janvier, c'est ça? En février?
Il est sorti en fait début février.
Début février, oui. D'accord.
Début février.
Donc, merci beaucoup pour tout.
Merci.
Bonne
merci
continuation. Et puis, à bientôt. Au plaisir de vous voir sur scène. Au revoir.
Au plaisir. Absolument. Au revoir.
Alors maintenant, voilà, on part avec Marianne Lambert qui nous chante Le Crépuscule. Et voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission. Et puis on remercie beaucoup la chorégraphe Catherine Godet pour sa toute nouvelle création « Se dissoudre » qui est présentée la semaine prochaine à l'Agora de la Danse. Alors renseignez-vous à l'Agora de la Danse. Vous l'avez entendu en parler. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez la réentendre en première partie d'émission. On a vraiment envie d'aller voir ce que ça va donner. Ensuite, vous avez aussi l'album de la soprano Marianne Lambert, accompagnée par l'harpiste Valérie Milo, son album qui s'appelle Canzone di Notte. Vous en avez entendu une toute petite partie parce qu'elle a quand même 19 chansons. Donc, allez-y, écoutez-la, ça va vous faire du bien. Merci à Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. Nicolas, qu'on retrouvera la semaine prochaine, puisque demain, c'est avec Maurice Bolduc que nous serons. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Alors, à demain pour ceux qui sont réguliers. Et Nicolas, à la semaine prochaine. Bye à tous.